Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble dans l'Évangile selon Jean et le chapitre 5. Je voudrais lire du verset 1 jusqu'à verset 9 et vous parler d'une guérison inattendue. Nous avons ici un exemple de la manière que le Seigneur Jésus délivre des pécheurs qui sont incapables eux-mêmes d'être délivrés. Les moyens que les hommes donnent pour avoir le salut, si ça dépendait de l'homme, nous avons l'exemple ici de cet homme malheureux qui était à côté d'un réservoir de Bethsaida, mais incapable de faire quoi que ce soit pour sa propre guérison. Donc, dans cela, nous avons un exemple de tous ceux qui sont pécheurs devant Dieu et qui dépendent entièrement de la grâce de Dieu, mais aussi de l'œuvre du Seigneur Jésus à leur égard pour être sauvés. Et c'est écrit ici dans Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Nous ne savons pas exactement quelle fête, mais c'est précisé une fête des Juifs. Ça, c'est en contraste des fêtes que Dieu lui-même avait ordonnées à travers la loi dans l'Ancien Testament. Ici, c'est précisé une fête des Juifs. Il faut savoir que la religion aime ajouter à ce que dit la parole de Dieu, établissant toutes sortes de fêtes et de célébrations qui ne sont pas nécessairement prescrites dans les Écritures. Donc, une fête des Juifs. Et c'est écrit, Jésus monta à Jérusalem. D'ailleurs, si vous voyez dans les chapitres 5, 6 et 7, chaque chapitre débute avec ces mêmes phrases, après cela. Donc, nous voyons notre Seigneur Jésus en déplacement ici, allant ici et là, mais avec précision. Le Seigneur Jésus ne s'est jamais déplacé simplement pour se distraire. Il est venu pour accomplir et faire la volonté de son Père. Donc, c'est pourquoi il se déplace ici. Il y avait là, à Jérusalem, quoi qu'il y avait des foules, des multitudes, mais il y avait là, en particulier, un homme que le Seigneur Jésus-Christ est venu chercher et sauver, exactement comme nous avons vu dans le chapitre 4 avec la femme samaritaine, où c'était écrit, il fallait que le Seigneur Jésus passe par la Samarie à cause de cette femme. Ici, dans le chapitre 5, à cause de cet homme qui était auprès de ce réservoir d'eau, mais incapable de se jeter dedans pour être guéri, comme c'était la tradition. C'est écrit dans le verset 2, « Or à Jérusalem, près de la porte des brebis. » Il faut aller jusqu'à dans le livre de Néhémie, le chapitre 3, lorsqu'ils ont reconstruit Jérusalem. Il y avait 12 portes autour de cette ville, représentant les 12 tribus d'Israël. Mais ici, c'était une porte de brebis. C'est intéressant ce titre. Certains disent que c'est à travers cette porte que les bergers faisaient rentrer leurs brebis dans la ville. Mais du point de vue spirituel, c'est significatif aussi parce que ceux que le Seigneur Jésus-Christ est venu chercher et sauver sont appelés les brebis. C'est lui le bon berger, le chef souverain, le grand berger qui est venu chercher et donner sa vie pour ses brebis. Donc, un homme ici, auprès de cette porte des brebis, et aussi là, une piscine ou un réservoir d'eau. Vous ne voyez pas dans tout cela des exemples du Seigneur Jésus, celui qui est venu chercher et sauver ses brebis, et lui aussi étant l'eau de vie. Ce n'est pas une eau naturelle qui peut être la source du salut. Il y en a qui pensent que les eaux de baptême, c'est là qu'on trouve le salut, pas le baptême. Non, l'eau simple ne peut pas sauver, mais il faut l'eau de vie, cette eau éternelle. Alors, il y avait là une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Ça aussi, c'est un nom important, parce que Bethesda signifie en fait maison de miséricorde. Donc, ce n'est pas au hasard que nous voyons ces noms et ces titres, parce que pour cet homme infirme et à côté de tout cela, mais toujours incapable lui-même de prendre un pas pour le salut. Je sais que les prédicateurs aujourd'hui aiment dire aux gens que si vous prenez le premier pas, alors c'est Dieu qui fera le reste. Mais imaginons dire cela à cet homme malade qui ne pouvait pas se déplacer. Et même, c'est écrit, il n'y avait personne à côté de lui qui pouvait le prendre et le mettre dans l'eau au moment où l'ange est venu agiter cette eau. Donc, incapable de lui-même de recevoir le salut. Pourtant, il était dans cette, à côté de cette piscine qui s'appelait Bethesda. Et cela signifie maison de miséricorde. Alors, il y avait aussi cinq portiques à côté. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et c'est écrit car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui est descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Alors, on se demande si ça c'était simplement une tradition ou bien une réalité. Nous savons que Dieu se sert des anges comme d'agents en faveur de son peuple terrestre, et la Bible les appelle des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui sont héritiers du salut. Nous voyons ça surtout dans Hébreux et le chapitre 1. Et le verset 4, où c'est écrit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Nous savons que dans la Bible, nous ne devons pas adorer les anges, ni chercher l'intervention des anges dans tout ce chapitre. Dans Hébreux 1, toute la gloire revient à Christ, et les anges sont ses ministères pour accomplir sa volonté. Tel est son droit en tant que roi des rois, celui qui est le chef même des anges. Donc nous ne devons pas mettre l'importance sur les anges ni sur les guérisons. Pourtant, cela est devenu maintenant une tradition où les Juifs, et surtout, apportaient les malades à côté de cette piscine pour attendre que l'eau soit agitée. Et quelle que fût la maladie, alors le premier à se mettre dans l'eau était guéri. C'est possible que Dieu s'est servi de cela pour préparer la voie ou bien le chemin pour cette rencontre que nous avons ici entre Christ et cet homme infirme. Dieu est le Dieu de l'histoire, c'est lui le Dieu de la providence. Et puisque c'est écrit ici dans les Écritures, nous ne devons pas mettre en question le fait que cela s'est passé de temps en temps, mais toujours selon la volonté de Dieu. Nous savons que ce n'était pas selon la volonté des hommes, comme nous avons aujourd'hui des hommes qui font de leur ministère la guérison. Et à chaque rencontre, ils veulent prouver qu'ils sont puissants et ils invitent les malades à venir pour faire une démonstration de leur puissance de guérir, tout en faisant ça au nom du Seigneur Jésus. Pourtant, ce sont des faux prédicateurs. Leur but n'est pas d'annoncer le Christ de la Bible, mais plutôt d'attirer l'attention sur eux-mêmes. Donc encore, les hommes prennent parfois ce que Dieu fait pour sa propre gloire et ils cherchent à tourner ça à leur propre gloire. Mais quelle que soit la situation ici, verset 5 nous dit que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alors le voilà dans une ville appelée Jérusalem, entouré de ces hommes religieux et à côté d'une piscine d'eau où il y avait cette tradition pour les malades d'attendre à ce que l'eau s'agite, pourtant toujours infirme depuis 38 ans. Ça, c'est un long temps d'attendre et d'être malade. Pourtant, c'est un exemple, je crois, de tout pécheur qui est né dans ce monde, qui est né sous la malédiction du péché que notre père Adam nous a donné, infirme et incapable de même faire un pas pour notre propre délivrance ou salut. Dans Romains chapitre 8, et à partir du verset 7, nous lisons ceci, parce que le message populaire aujourd'hui, c'est que l'homme a en lui-même la capacité, par son libre arbitre, sa propre volonté, de venir à Christ et recevoir le salut. Mais ce que nous voyons dans cette histoire, dans Jean 5, ce n'est pas l'homme qui s'est approché du Seigneur Jésus, mais c'est le Seigneur Jésus qui s'est approché de lui. C'est le Seigneur Jésus qui est venu le trouver là, dans cet état, et l'a guéri. C'est pourquoi le titre de ce message, c'est une guérison inattendue. Comme notre salut, nous n'avons pas cherché Dieu. Plutôt, c'est Dieu qui nous a choisis si nous sommes sauvés, et c'est Christ qui est venu donner sa vie en rançon pour des pécheurs incapables, comme nous, infirmes, incapables de faire quoi que ce soit. Et c'est l'Esprit qui révèle Christ en nous. Et par là, nous avons la délivrance. Mais dans Romains chapitre 8, en ce qui concerne notre chair et notre propre volonté, c'est écrit dans le verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Nous ne sommes pas nés dans ce monde avec un amour pour Dieu. C'est le contraire. Cette chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est pourquoi verset 8 dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Comme cet homme, il ne savait pas quoi faire en ce qui concerne sa délivrance. Pourtant, il était dans le besoin et les hommes passaient tout autour, incapables de l'aider. Et c'était sa réponse quand, dans Jean 5, le verset 6, Jésus l'ayant vu coucher, et notez, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc, le Seigneur connaît notre état. Rien n'est caché à ses yeux. Pourtant, il y a un message aujourd'hui qui dit qu'il faut que l'homme d'abord se prépare pour se présenter devant Dieu et alors Dieu peut l'accepter. Non, cet homme ne pouvait rien faire. Pourtant, le Seigneur Jésus le connaissait. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Si c'était à nous de connaître même les profondeurs de notre état de péché, on ne pouvait jamais sonder cet état. Pourtant, le Seigneur Jésus nous connaît et quoi qu'il voit, il ne voit que les profondeurs de notre péché. Cela ne l'empêche pas de s'approcher pour sauver des pécheurs tels que nous sommes. Nous voyons ça surtout dans Romains chapitre 5, où c'était écrit là, dans le verset 6, car lorsque nous étions encore, notés sans force, comme cet homme infime, dans notre texte, Jean 5, nous étions encore sans force. Christ autant marqué, exactement comme cet homme, c'est autant marqué, il était là depuis longtemps, mais autant marqué, exactement selon le dessein éternel de Dieu, Christ est venu à sa rencontre et cet écrit est mort pour des impies. Il y avait beaucoup d'autres religieux autour du Seigneur Jésus à Jérusalem, mais ce n'était pas envers eux qu'il est allé. Il est allé auprès de cet homme malade. Vous ne voyez pas comment cela nous donne l'espoir, considérant notre propre péché devant Dieu, que Dieu, dans sa grâce, ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Mais Christ est venu non seulement pour nous donner un exemple de la manière que nous devons vivre, mais il est venu donner sa vie. C'est ce que la loi exigeait, la mort. Voilà un, bien vrai que le Seigneur Jésus allait guérir d'une manière physique, mais plus important encore, dans sa vie, il allait aussi donner sa vie et mourir pour cet homme afin de payer sa dette spirituelle. Les maladies physiques ne sont qu'une preuve que nous sommes déchus. Et nous sommes des pécheurs, c'est le signe que nous sommes des pécheurs. Mais notre plus grand besoin, c'est le salut de l'âme, et cela pour l'éternité. Donc cet homme infirme, qui ne pensait simplement qu'à sa maladie physique, il devait maintenant découvrir en Jésus-Christ un plus grand besoin, et cela pour son âme. Mais Romains 5, 7 dit « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. » Je suis sûr qu'il y en avait, qui était là, malade, qui avait des gens à côté, qui les aimaient. Et lorsque l'ange est venu agiter l'eau, alors ils ont pu prendre leur bien-aimé et courir pour les mettre dans l'eau pour la guérison. Ils avaient quelqu'un à côté, mais cet homme, comme nous allons voir, n'avait personne. Et ça, c'est une bonne chose, parce que quand nous sommes complètement privés d'une aide quelconque parmi les hommes ou dans la chair, c'est là que nous voyons le Seigneur Jésus dans toute sa grandeur. Et c'est écrit dans Romains 5, le verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puis, verset 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Cette guérison physique de cet homme n'était pas son salut. Christ s'est révélé en lui, c'est sûr, mais c'est lorsque Christ devait mourir à la croix pour lui qu'il allait voir et comprendre sa justification devant Dieu, déclaré juste et complètement acquitté de toute condamnation. C'est écrit, serons-nous sauvés par lui de la colère? Et puis verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, vous ne voyez pas la progression, ça commence avec nous qui étions sans force, et puis ça c'est dans le verset 6, et puis après ça, nous qui étions encore des pécheurs, il faut pas ignorer le sens de ce mot péché, c'est d'être séparé de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce péché-ci ou ce péché-là, mais c'est notre état devant Dieu de pécheur. Mais encore pire, dans le verset 10, lorsque nous étions ennemis, cela veut dire dans notre cœur et dans notre esprit, c'est comme cet homme, on pouvait peut-être dire non, mais il n'était pas l'ennemi de Christ. Le fait de ne même pas connaître Christ, et de chercher son bien-être lui-même sans comprendre ce qui concerne la gloire de Dieu, c'est d'être son ennemi. Ça, c'est notre nature à nous tous. Mais lorsque nous étions ennemis, c'est écrit, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Tout revient à la mort de son Fils. Tout ce que Christ est en train de faire pour cet homme ici, c'est de montrer sa puissance, de le délivrer, non seulement de sa maladie physique, mais plus important encore, sa maladie spirituelle. C'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris spirituellement. Voilà ce qu'il nous faut. Mieux vaut être malade toute notre vie et avoir ce salut que d'être guéri et rater maintenant ce salut pour l'éternité. Mais notez bien, comme nous allons voir ici dans Jean 5, le Saint Jésus n'a mis aucune condition sur cet homme d'abord pour demander à cet homme de faire quoi que ce soit pour que le Seigneur le guérisse. Ici, nous voyons que le salut est entièrement de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Vous ne voyez pas la bonne nouvelle en cela, que si aujourd'hui j'appartiens à Christ, ce n'est pas au moment où je croyais en lui qui était mon salut. Mon salut était accompli à la mort de son Fils. C'est là qu'un pécheur tel que je suis a été réconcilié avec Dieu, par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Je vous dis, c'est pourquoi Christ s'est déplacé à côté de cet homme malade. Pourtant, il y avait beaucoup d'autres là qui étaient malades. Mais nous ne lisons pas que Christ a continué à guérir tous ceux qui étaient là. Mais cet homme en particulier était un de ceux que le Père a donné au Seigneur Jésus avant la fondation du monde. L'existence du Seigneur Jésus n'a pas commencé lorsqu'il est venu dans ce monde. Il est éternellement le Fils de Dieu, mais il est venu dans ce monde. Il a pris chair afin de représenter des hommes comme ceux-ci, ou des femmes comme la femme samaritaine, qui étaient incapables du salut eux-mêmes, mais c'est Christ qui est venu les chercher, les sauver. Ah, quelle bonne nouvelle d'entendre cela. Donc, revenons dans notre texte dans Jean 5, toujours une guérison inattendue. Il faut dire que si je suis à Christ aujourd'hui, et je parle particulièrement de moi-même, si je vous annonce cet évangile, Ce n'est pas parce que je suis plus sage que tout autre et que par mes propres études, je suis arrivé à cette connaissance. Non, il fallait que Christ lui-même s'approche de moi comme cet homme infime, tel que j'étais aussi infime dans mes péchés, sans connaître le véritable Dieu. J'avais une idée de Dieu, j'avais étudié cette Bible pendant des années, mais sans comprendre le Dieu de la Bible. Et c'est lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ à moi à travers cette parole que je suis maintenant ce que je suis. Et j'annonce la grâce de Dieu en Jésus-Christ seul. Personne ne peut m'arracher ce message parce que c'est une persuasion que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas une préférence. Une préférence, on peut peut-être aimer ceci ou bien aimer cela, mais une persuasion d'être persuadé au fond du cœur de notre être, ça c'est une œuvre de Dieu. Et voilà notre état. Mais nous voyons ici dans le verset 6 que Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alors voilà, beaucoup aiment sauter sur cette question. Et ils vont interpréter ça dans le sens que voilà, donc le choix dépend de cet homme. Mais nous voyons sans nécessaire voir l'esprit à l'œuvre, parce qu'on ne peut pas voir l'esprit de nos yeux, mais l'esprit de Christ était déjà en œuvre, à l'œuvre dans cet homme. Et nous voyons ça par sa réponse. Le malade lui répondit, verset 7, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Donc, il est déjà en train d'annoncer et confesser son incapacité lui-même. Et je dois dire que ça, c'est toujours le signe ou bien la preuve que l'Esprit de Dieu est en œuvre dans un pécheur. Parce qu'il confesse qu'il ne peut pas, même face à tous les commandements qu'on voit dans la Bible, on peut dire qu'il n'y a personne qui puisse m'aider à avancer même un pas. Et même si je m'efforce, voilà, je n'arrive pas. Alors ça, c'est une bonne confession d'admettre que nous ne pouvons pas, même donner le choix, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi plus tard dans Jean chapitre 6, nous voyons enseigné là, dans le verset 44, le Seigneur Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi. » Exactement comme cet homme qui devait confesser que si ça dépendait des hommes ou bien de lui-même, il n'arrive pas à avoir cette guérison. Et plus tard, dans ce même chapitre, Jean 6, nous lisons dans le verset 63, Christ dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Voilà ce qu'il faut pour cet homme. C'est comme Christ a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît d'en haut, si Dieu lui-même ne vivifie, la chair ne sert de rien. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris cela. Même je dois vous dire maintenant où je suis ici, étant un enfant de Dieu, régénéré par l'Esprit de Dieu, mais je dois vous dire que ma chair ne sert de rien. Je dois compter cette chair comme une chair morte, parce que c'est incapable de m'aider, même aujourd'hui. Cette chair est toujours dépravée. Donc, il me faut toujours l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ de me vivifier. Et Christ dit dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites, son esprit est vie. » Voilà ce que cet homme attendait sans le savoir. Il avait besoin que Christ lui-même prononce les mots. Ou dans Jean 5, verset 8, dit « Lève-toi ». Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Sans cela, personne ne peut se lever. Sans que Christ ne donne cet ordre. Alors, on peut se demander, mais à qui est-ce qu'il donne cet ordre? Il donne cet ordre à chaque pécheur, au temps marqué, ouais, tout ça c'est important, que le Père lui a donné avant la fondation du monde. Dans Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, il laisse savoir que ce n'est pas pour tout le monde qu'il prie. Verset 9, Jean 17, 9. C'est pour eux que je prie, il dit. Je ne prie pas pour le monde. Et qui sont ceux pour qui il prie? C'est écrit, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Comment est-ce que ceux qui sont donnés à Christ étaient déjà, appartenaient déjà au Père? C'est parce que depuis l'éternité, Dieu les a choisis comme cet homme. La seule raison que Christ s'est approché de lui pour lui dire, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche, c'est parce qu'il était un de ceux-là pour qui Christ est venu donner sa vie. Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 6 et le verset 63, Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Christ qui rend cette parole efficace. Il y en a beaucoup qui entendent, comme auprès de ce réservoir. Il y avait beaucoup qui ont remarqué et ont regardé comment Christ a guéri cet homme. Pourtant, cela ne les a pas changés eux-mêmes. Il fallait que Christ prononce ces mots pour qui que ce soit, afin qu'il soit sauvé. Comme Lazare qui était mort. Il y avait beaucoup de morts. Lorsque Christ s'est approché du tombeau où ils ont placé le corps de Lazare, mais il a dit, Lazare sort. Voilà ce qui était la parole efficace. Et si nous sommes à Christ aujourd'hui, nous savons que c'est parce qu'il a pris cette parole et l'a rendue efficace en nos cœurs afin que nous vivifions, nous soyons vivants par l'Esprit de la grâce. Alors, Jean 6, 64 dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, et ça c'est sûr, et ce serait notre état toujours, si ce n'était le Seigneur Jésus qui nous donne cet ordre de vivre, de nous donner des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Le Seigneur Jésus n'est pas ignorant de l'incrédulité dans les cœurs des hommes. D'ailleurs, il connaît notre incrédulité mieux que nous. Mais si nous sommes un de ceux qu'il est venu chercher et sauver, il ne peut pas nous laisser dans cet état. C'est pourquoi dans Jean 6, 65, c'est écrit, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Alors, cet homme infime, malade ici dans Jean 5, dans mon texte. Et maintenant, là, et c'est le Seigneur Jésus qui lui donne cette parole, et avec la parole vient maintenant l'efficacité de se lever. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et nous ne lisons pas là que l'homme était assis en train d'évaluer, mais comment me lever? Il dit de me lever, mais je ne peux pas. Non, verset 9 dit, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Ah, ça c'est l'efficacité de l'évangile que nous avons annoncé. Et si nous sommes à Christ, nous avons déjà expérimenté cette puissance, cette efficacité dans nos vies. Quelle que soit notre incapacité, nous savons que si nous sommes aujourd'hui à Christ, c'est lui qui nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et encore, nous avons déjà vu ça dans Jean chapitre 1, où c'est écrit dans le verset 11 que Christ, la parole, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Tel était le cas. Il y avait beaucoup à Jérusalem qui ne l'ont point reçu. D'ailleurs, même dans le contexte, nous allons lire qu'il y en avait qui étaient fâchés que Christ a fait ce miracle leur jour de sabbat. Et ils ont trouvé que Christ ne devait pas être en train de travailler le jour de sabbat. Pour eux, c'était une œuvre qu'il faisait, donc il ne devait pas faire ça le sabbat. Mais Christ a fait ça expressément le sabbat pour contredire leur tradition. Parce que ces traditions ne peuvent pas sauver qui que ce soit. Et c'est une des leçons que nous voyons ici, même avec cet homme infirme. Les traditions humaines n'ont pas pu lui donner une véritable espérance. Donc Christ est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et encore, quand Christ s'est adressé à cet homme infirme, ce n'était pas que l'homme fasse quelque chose d'abord pour que Christ maintenant achève ce qu'il est venu faire, non. Encore une guérison inattendue, un salut inattendu. Telle est notre espérance si nous sommes enfants de Dieu, que c'est Christ qui s'est révélé en nous, quelle que soit notre incrédulité, notre incapacité. Et c'est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, notez bien, Jean 1, 12, elle, c'est-à-dire la parole qui est Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, la raison pour laquelle cet homme, quel que soit le fait que Christ lui a donné un ordre impossible à lui-même en lui disant « lève-toi », mais avec cette parole est venu le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et c'est pourquoi c'est écrit « lesquels sont nés » dans Jean 1, 13, « non du sang ». Tout ce que cet homme a reçu de ses parents, c'était la maladie. Étant un fils d'Adam, c'est tout ce que nous avons reçu nous-mêmes. C'est l'échec, c'est la condamnation, c'est tout ce que Adam peut nous donner. Mais lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Cet homme a dû confesser cela, que même si l'eau est agitée et il cherchait lui-même à se pousser vers cette eau, il n'arrivait pas de lui-même, donc, ni de la chair, mais c'était aussi écrit dans le verset 13, ni de la volonté de l'homme. Il y en avait qui étaient autour de lui. Mais il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Si on était tout près de cette eau qui est Christ, et ça dépendait de nous maintenant de nous venir nous plonger dans cette eau, on ne pouvait pas. C'est écrit, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, quelle bonne nouvelle pour ceux en qui Christ s'est révélé, en contraste avec les traditions humaines qui ne peuvent donner qu'une fausse espérance. Mais deuxièmement, je vois ici que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et je peux vous dire avec joie qu'aucun cas n'est trop difficile pour lui. Cet homme était malade depuis 38 ans. Pourtant, cela n'empêchait pas le Seigneur Jésus avec une seule parole de lui dire « lève-toi et marche ». Et c'est exactement ce qu'il a fait. Mais nous voyons que ici aussi, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, quoi qu'ils soient incapables eux-mêmes, mais c'est le Seigneur qui les trouve. Il est venu chercher, sauver ce qui est perdu. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas nous qui avons trouvé le Seigneur. Le Seigneur n'a jamais été perdu pour dire qu'on l'a trouvé. Non, c'est nous qui sommes perdus, égarés, Et c'est Christ, le bon berger, qui est venu nous retrouver. Mais nous voyons aussi en cela, quand c'est écrit, nous disons que le Saint connaît ceux qui lui appartiennent. Cette délivrance dépend de Jésus-Christ et non pas du malade. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas l'évangile que nous avons à prêcher. Alors, ils imaginent que non, il faut quelque chose de plus que simplement prêcher Christ et Christ crucifié. Mais je dois vous dire, comme Paul lui-même a dit, quoique cela est une folie pour ceux qui périssent, ils ne comprennent pas comment ce message peut sauver qui que ce soit, mais nous savons, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 1 et le verset 18, mais pour nous qui sommes sauvés, notez comment la manière que c'est écrit, déjà sauvés, comment? Par l'élection de la grâce de Dieu et par l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus et par cette œuvre de l'Esprit qui nous régénère, nous sommes sauvés. Et pour nous, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a pas autre message qu'il nous faut pour la délivrance des malades, comme si une fois annoncé Christ maintenant, nous devons donner tel ou tel devoir aux pécheurs pour qu'ils fassent les pas vers Christ. Non, la délivrance dépend de Jésus Christ seul et non pas du malade. Et puis, le dernier point, simplement que c'est la délivrance de Jésus lorsqu'il prend cette délivrance est complète et parfaite. Ah, voilà ce que j'aime en ce qui concerne le message de l'évangile. Parce que Jean 5, 9 dit, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Il y en a aujourd'hui qui disent que non, une fois converti, il faut maintenant soumettre les pécheurs maintenant à des enseignements, à des lois, à des règlements, afin qu'ils apprennent maintenant à marcher en Christ. Cet homme n'a pas marché pendant 38 ans. Pourtant, quand le Seigneur Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, c'est ce qu'il a fait. Il n'avait pas besoin de quelqu'un de venir à côté et l'aider pour lui dire, ah, voilà comment il faut mettre ce pas devant l'autre et puis faisons attention, on n'a pas tombé. Non. Il se levait, il a pris son lit et marcha. Ah, voilà la joie de ceux qui sont au Seigneur Jésus et que c'est le Seigneur lui-même qui rend cette œuvre efficace en ceux qu'il est venu chercher et sauver.